il y a une vie après Normal.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, avec Antoine de 20 minutes d'histoire et Caroline, nous vous proposons une interview de Valérie Hanin. Normalienne, agrégée d'histoire, elle enseigne cette discipline au lycée, mais elle est aussi rédactrice en chef du magazine Histoire et administratrice du Festival du film de Pessac. Elle va nous entretenir avec précision et bonne humeur de ses activités, mais aussi, parce qu'elle se définit avant tout comme citoyenne, de leur résonance avec l'actualité. Valérie Hanin. Bonjour Valérie Hanin.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire, rédactrice en chef du magazine L'Histoire et administratrice du Festival de films d'histoire de Pessac. Alors commençons par ça, puisque l'actualité nous y invite. Le dernier festival de Pessac qui s'est tenu en novembre avait pour thème la fin des colonies. Quelle est votre interprétation de la réaction française face à la révolution de Jasmin ?
Mon interprétation, je serai extrêmement prudente. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des pays du Maghreb. Je ne peux avoir qu'une opinion de citoyenne un peu éclairée sur la Tunisie peut-être. Alors la révolution de Jasmin, si c'est de la Tunisie, évidemment plus précisément que vous voulez parler. Que dire ? C'est évidemment un immense mouvement qui s'esquisse, qu'on n'a pas su prévoir. Vous me posez la question sur la réaction de la France. J'ai un peu tendance à dire et à prêcher aujourd'hui autour de moi que finalement le plus important, c'est pas la réaction de la France, c'est plutôt ce qui se passe là-bas, ce qui est évidemment quelque chose de très important, et bien sûr pas seulement en Tunisie, mais aussi en Égypte et peut-être dans beaucoup d'autres pays encore. Ça a surpris, la nature du mouvement surprend, on n'a pas fini évidemment de l'analyser. Ce qui me frappe moi, même si je cherche à ne pas être trop naïve ou trop enthousiaste, c'est l'extrême modération de toutes les revendications qu'on a entendues. Le fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire, malgré le spectre islamiste qu'on ne peut pas ne pas avoir en tête, parce qu'on a tous évidemment la révolution iranienne dans la tête, les menaces islamistes qui se sont accumulées dans le monde depuis 30 ans, on est frappé par la demande de démocratie, la demande de constitution, la voix des femmes dans un pays qui certes n'a pas été une démocratie, ça n'était pas une colonie, la Tunisie évidemment, vous le savez, c'était un protectorat, c'est quand même assez différent. Et puis il y a eu le personnage de Bourguiba qui certes n'a pas installé une vraie démocratie, mais a tout de même installé, a permis une transition. Et notamment, alors la moitié de la population au moins peut lui en savoir gré, une laïcisation de la société tunisienne, la création d'une vraie classe moyenne, et notamment d'une classe moyenne éduquée, on en a vu les effets, et d'une classe féminine éduquée, on en a vu les effets, pourvu que ça donne à cette révolution, car c'en est d'ores et déjà une allure de vraie marche vers la démocratie. Je ne peux absolument pas vous dire si ça se fera, mais je peux vous dire que, évidemment, je le souhaite ardemment, comme beaucoup de gens.
Eh bien, merci pour cette réaction à chaud. Alors, on l'a dit, vous participez donc au festival de Pessac. Vous êtes aussi agrégé d'histoire. Alors, pouvez-vous, en quelques mots, évoquer votre parcours depuis la sortie de l'ENS ?
Alors, j'ai intégré l'ENS à Fontenay, à l'époque. En 76, j'ai donc passé l'agrégation en 79 en histoire, et mon parcours, il a été très simple, même peut-être un tout petit peu atypique, mais très simple. J'ai commencé à enseigner, j'ai fait un stage, à l'époque on avait quand même un stage d'un an, au lycée. J'ai fait un peu tous les lycées comme tout le monde, Argenteuil dans la banlieue en stage, et puis Cherbourg en poste, et puis retour au collège à Pontoise, et puis retour à Paris, puisque c'était ce qui m'intéressait, dans différents Argenteuil d'abord, puis à Paris, dans différents lycée. Je suis actuellement en poste au lycée Racine à temps partiel, parce que ce qui m'est arrivé d'un peu original, et c'est peut-être pour ça que vous m'avez fait le grand honneur de m'inviter ce soir, c'est que quand j'ai passé l'agrégation, on était dans une époque peut-être un peu inspiré par le maoïsme, ou je ne sais pas, ou par les expériences des établis des années d'après 68, on nous faisait faire un stage en entreprise. Aujourd'hui, ça redevient à la mode. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller faire des stages en entreprise, parce que je crois que c'est vraiment très, très important à tous égards qu'il y ait de la porosité entre le monde académique et le monde... je ne vais pas dire du travail, hein, parce que je sais que le monde académique est un vrai monde du travail, mais le monde de l'entreprise, disons. Je crois que c'est vraiment très important. On faisait des stages, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'en ai vraiment bénéficié. Car à l'époque, j'avais envie vraiment de fuir l'enseignement, ce que je n'ai jamais fait depuis, mais au contraire, je crois que j'aime beaucoup ça. Mais j'avais envie de le fuir et j'avais envie de faire tout autre chose, peut-être de la haute administration, passer l'ENA, ou peut-être, ça nous fascinait déjà, du journalisme. Et donc, j'ai voulu faire un stage dans un journal. Je ne connaissais personne, donc j'ai été... gentiment éconduite un peu partout, au Monde, au Nouvel Observateur, au Matin de Paris à l'époque, enfin bon, bref. Et puis j'ai frappé à la porte de la revue L'Histoire, je ne connaissais pas, mais ils étaient trois, c'était le vendredi soir, on a discuté, et donc j'ai fait un stage, et je n'en suis jamais vraiment partie. Enfin, j'y suis surtout vraiment revenue à mi-temps, au milieu des années 80, quand un chef de rubrique est parti à l'époque à La Découverte.
Mais vous avez effectué ce stage durant votre scolarité à l'ENS ou une fois que vous étiez prof ?
Ça faisait partie... alors, donc, il y avait 4 ans, comme aujourd'hui à l'ENS, mais il n'y avait pas de master, c'était une maîtrise en un an. Donc, j'ai fait la licence, j'ai fait une maîtrise d'histoire avec Daniel Roche à la Sorbonne. J'ai passé la Gringue et... j'ai fait une quatrième année en recherche aussi, un DEA à l'époque, c'était la première année de la thèse en histoire. Et ensuite, on avait une année de formation qui était la première année d'enseignant, une année de formation. C'était pas les IUFM, mais c'était un peu l'équivalent, donc en alternance, si on peut dire, c'est-à-dire stage au lycée, au collège, et un peu de formation. C'était très, très, très léger à l'époque. Mais enfin, ça ne nous dérangeait pas beaucoup. Et je ne devrais pas dire ça, mais enfin, c'était quand même encadré, c'était très encadré. Mais dans cette année de première année d'enseignant, il y avait la place d'un stage en entreprise de 3 mois. Et donc, je l'ai fait à la revue L'Histoire, c'était en 81.
Et donc, après, vous enseignez pendant plusieurs années tout en étant à l'Histoire ?
J'enseignais surtout, je continuais ma thèse parce qu'à l'époque, j'avais... quand même l'intention de la terminer. Je m'étais lancée dans une thèse sur les salons du XVIIIe siècle. C'est Antoine Lilti qui l'a finie, beaucoup mieux sans doute que je ne l'aurais faite. Enfin, c'est une très belle thèse qu'il a faite sous la direction de Daniel Roche plusieurs années après. Mais il faut dire que j'avais commencé sur le salon de Madame Necker et que les archives étaient fermées. En Suisse, à Copé, j'ai eu accès à très peu d'archives. Mais enfin, pendant 2 ou 3 ans, j'étais prof. Je travaillais un peu régulièrement, mais un peu sur ma recherche, et je travaillais un peu pour la revue L'Histoire. J'y venais le mardi au comité de rédaction et je lisais des manuscrits, mais un peu librement, disons. J'étais pas vraiment intégrée dans l'équipe.
D'accord.
Vous avez aussi accepté de siéger au Conseil de l'éducation. Alors pourquoi ? Et je me demandais aussi si c'est l'envie de vous engager publiquement pour votre discipline qui vous a... amené à ce Haut Conseil d'éducation.
Alors, pour ma discipline, sûrement pas, parce que ça n'est pas du tout comme historienne que je suis là. Le Haut Conseil de l'éducation, il a été fondé par Chirac et par Robien à l'époque, qui était ministre de l'Éducation nationale.
Il est fondé en 2005, c'est ça ?
En 2005. Donc, le mandat, nous sommes 9, le mandat... va arriver à échéance en novembre 2006, donc ce sera terminé. Pour moi, j'espère que ça continuera. C'était un assez grand honneur qui m'était fait, mais je crois aussi qu'il fallait, dans cette instance transversale qui est faite pour être une instance de société civile, dans laquelle il y a un grand banquier, des gens qui viennent de l'éducation nationale, mais pas seulement, l'ancien directeur d'HEC, le président, c'est le président de la Bibliothèque nationale de France, donc ça n'est pas une instance... d'éducation, c'est pas une instance EDUCNAT, d'éducation nationale. C'est une instance transversale qui a un avis consultatif et qui fait des rapports sur un certain nombre de sujets, au moins un grand rapport chaque année. Nous siégeons tous les jeudis matins sur des sujets généraux qui ne sont pas du tout liés, pas du tout à l'enseignement de l'histoire en particulier. Si j'ai accepté d'y aller, c'est parce que je ne me sentais pas, d'une certaine manière, le droit de refuser. Je pense que, comme citoyenne, comme professeure, comme historienne, je me passionne pour les sujets d'éducation nationale. Je me suis dit que c'était une grande chance de pouvoir participer à une instance comme ça, avec un petit peu de l'expérience que j'avais accumulée. Et j'espère l'absence d'esprit partisan. Voilà.
Mais c'est quand même un organe qui a connu une naissance un peu difficile. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui à jouer un rôle plein et entier dans ce qui lui a été...
Pourquoi une naissance difficile?
Je crois que M. Laforgue est parti dès le mois de
novembre
2005.
Ah oui, il y a eu des
débats discussions... autour du rôle que devait tenir ce
oui,
conseil.
Oui, bon, disons que lui ne s'y sentait pas à l'aise... Bon, a-t-il eu raison, a-t-il eu tort? C'est vrai que ça a été un problème de personnalité. Hein. Il est entré en très violent conflit avec deux ou trois personnes qu'il connaissait et avec qui il avait envie d'en découdre. Bon, c'est son droit, mais c'est pas du tout le ton de cette instance où les gens arrivent vraiment avec des bagages et des histoires très différents, mais où... Je dois reconnaître par expérience, et depuis 6 ans bientôt, qu'on a toujours discuté, mais vraiment discuté sur le fond, et réussi à produire des textes qui sont des textes de conciliation, enfin sur lesquels on a vraiment discuté, sur lesquels on s'est mis d'accord. Encore une fois, venant d'horizons très différents. Lui, ça n'était pas du tout son envie, et il faut quand même avoir un peu... l'envie de discuter, de rechercher du consensus sur certains sujets. Bon, il en est parti de façon un peu brutale, mais on ne peut pas dire, malgré cet épisode, que la naissance ait été si difficile. Dès l'année suivante, on a fait un rapport de façon normale, enfin, en se réunissant régulièrement.
D'accord. Et passons à autre chose. On a beaucoup aussi débattu l'an dernier sur la place de l'histoire dans l'enseignement secondaire. En tant qu'historienne, quelle est votre position sur ce sujet? Quelle place pour l'histoire à l'école et plus largement dans notre société?
Je pense que l'histoire en France, c'est pas très original, que l'histoire en France a dans l'enseignement une place tout à fait exceptionnelle, liée à l'histoire de la République, à l'histoire de l'école, et à l'histoire nationale, enfin une histoire nationale dans laquelle les historiens ont pris une place énorme. Je m'en réjouis parce que je pense que c'est une discipline extrêmement formatrice, qu'on trouve des extrémistes parmi les historiens, mais qu'on trouve aussi beaucoup de constructeurs, qu'on trouve aussi des gens qui ont envie de participer à l'élaboration d'une société de démocratie, qui sont très attachés à la liberté d'expression, au débat, tout ça me paraît important. Y compris dans le débat récent sur les lois mémorielles dont on pourrait discuter encore, mais bon, les historiens ont beaucoup discuté, mais quand même se sont beaucoup engagés, un peu toujours dans le même sens. Donc tout ça me paraît important. Je pense que l'histoire a une place à tenir dans l'enseignement. Je voudrais pouvoir vous répondre pas seulement comme historienne, parce que je pense qu'il faut surtout éviter les réflexes ultra-corporatistes, et je fais partie des gens, c'est pourquoi je ne serai peut-être pas très politiquement correcte, je fais partie des gens qui pensent que ça n'est pas forcément au nombre d'heures dans un enseignement qu'on juge de la qualité, de l'importance d'une discipline. Mmh. Et je crois que ça aussi, c'est fait partie d'un ensemble et qu'il faut raisonner sur l'ensemble d'une formation. Mmh. De sorte que tout est discutable, même peut-être le nombre d'heures en terminale scientifique d'histoire. Simplement, il reste quand même que la réforme du lycée s'est faite à la va-vite, dans une grande hâte, qu'elle est faite très très largement dans un souci d'économie. C'est pas forcément une mauvaise chose de chercher à faire des économies, mais peut-être pas à n'importe quel prix. Donc, la forme me paraît, la manière dont ça se fait, plus importante, plus désastreuse, disons, que toutes les discussions sur les horaires. Mais enfin, reste que la formation en histoire est vraiment, vraiment quelque chose de très français et à quoi on peut être, surtout nous, j'imagine, très attachés.
Alors, passons maintenant à vos activités médiatiques. Alors, comme on l'avait dit précédemment, Vous êtes rédactrice en chef de l'Histoire. Cette revue est assez populaire chez les amateurs comme chez les historiens confirmés.
Tant mieux.
À l'école, je sais qu'on est beaucoup à les lire. J'ai amené mon numéro.
Vous avez un directeur qui y signe quelquefois.
Est-ce là donc le fruit de la ligne éditoriale entre d'une part une vulgarisation, mais aussi des ambitions scientifiques avec des articles de spécialistes à chaque fois dans tous les numéros? Est-ce que c'est un peu un surf entre ces deux?
Vous me demandez si le fait que ce soit une revue relativement à succès et tient à son concept, voilà, au fond, hein, c'est exactement. Ça. Bon, je ne peux pas dire, parce que peut-être que s'il y avait un autre concept, elle aurait plus de succès encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un concept original. J'en parle très librement parce que je n'étais pas du tout à l'origine. Hein, c'est une revue qui a été fondée il y a un peu plus de 30 ans, dans le cadre des éditions du Seuil. C'était le PDG des éditions du Seuil, Michel Schottkiewicz, à l'époque, qui en avait eu l'idée, sur le modèle de la revue La Recherche. C'est-à-dire l'idée de faire sortir l'histoire académique de l'université pour un public de profs, d'étudiants, de chercheurs, mais aussi un public cultivé. Et c'est un pari, il a donné le premier, il a confié la mission à Michel Vinocq, hein, qui était universitaire lui-même, et historien bien sûr, et directeur littéraire au Seuil à l'époque, et bientôt professeur à Sciences Po, et qui a réuni une équipe. Et ce projet a été vraiment un projet très original. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a des revues qui ressemblent. Il y en a eu quelques-unes en Italie. Storia et Dossier. Il y a un peu History Today, Journal Fergeschichte. Mais ça n'est pas exactement le même concept. C'est une ça s'inscrit dans une tradition bien française aussi, quand même. Hein. C'est pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que à cause de l'histoire de la discipline d'histoire au XIXe siècle, et notamment le Michelet, si vous voulez, hein, Michelet au Collège de France. Michelet au Collège de France fait de l'histoire belle et bonne, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, Michelet travaille, il est même directeur des archives, il travaille aux archives, il fait une vraie histoire. D'une certaine manière, il est un peu aussi un fondateur de l'histoire scientifique. N'empêche qu'il fait des cours au Collège de France, qui sont des cours très grand public, et même très politique d'ailleurs, en 1848, ça lui vaudra des ennuis. Mais derrière Michelet, et dans cette tradition, il y a eu toujours dans l'université en histoire en France des Marc Bloch, des Duby, des gens qui sont d'authentiques citoyens engagés et d'authentiques écrivains. Hein, on peut dire, Duby, c'est un grand écrivain. Du coup, ça a permis peut-être d'abattre un peu les cloisons dans cette discipline et dans ce cadre-là, entre la Sorbonne et l'université en général, enfin la Sorbonne en serait le symbole, et un public cultivé. Oui. Mais évidemment, il fallait encore un projet journalistique, médiatique peut-être, enfin bon, un vrai au sens étymologique, oui, un projet de journal qui soit un projet écrit par des universitaires comme une revue scientifique, mais vendue en kiosque comme un magazine, ce qui fait que c'est à la fois une revue et un magazine, et que c'est une voie étroite qui contraint beaucoup, qui oblige, qui fait que c'est un vrai instrument de travail pour les étudiants, mais qui doit aussi séduire un public plus large.
Il faut que le public suive et que...
Il faut plaire, il faut que les gens acceptent de payer pour le lire. Et il faut que ce soit quand même séduisant, et en même temps, on a quand même la charge, enfin la mission, de faire une histoire sérieuse. Ça oblige du coup à un vrai métier d'interface que d'autres journalistes peuvent connaître. La revue est une interface entre l'université et son public. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler les universitaires pour un public élargi, ce qu'ils font assez volontiers, surtout en histoire.
De ce qui fait que, public.
Bien entendu, oui. Bien entendu. C'est-à-dire qu'ils, bien sûr, ils le font. Ils le font même. Ils râlent beaucoup. On discute beaucoup. Ils travaillent à la commande. Je dis quelquefois que mon métier consiste à faire aux gens, aux universitaires, des articles qu'ils n'avaient pas du tout envie d'écrire. C'est souvent vrai, mais ils y prennent goût. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, car les historiens écrivent pour les journaux, répondent aux interviews dans les journaux, vont volontiers à la télévision. Vous les entendez, hein, oui, là, ces jours-ci. Il n'y a pas des masses d'historiens du monde arabe, enfin, contemporain. Mais enfin, on les entend tous ces jours-ci. On les lit dans les journaux. Ils y vont. Nous, évidemment, on arrivera avec un peu de décalage puisqu'on est un mensuel. On nous demandera quelque chose d'un peu plus construit, de référence, mais on fera ce travail qu'ils sont tout prêts à faire. Mais on travaille par rapport à une revue scientifique beaucoup plus à la commande. Mmh. C'est-à-dire que si vous arrivez avec votre thèse dans quelques années, je vais vous dire, votre thèse, elle est très intéressante, mais on ne la publiera pas comme ça. En revanche, avec votre compétence, vous pourrez nous traiter, vous pourriez par exemple traiter un article sur, en retournant le gant, sur une question que les gens se posent vraiment. C'est-à-dire qu'il faut réussir à transformer un sujet, c'est plus ou moins facile, en réponse à une question que les gens se posent vraiment.
Et peut-être c'est aussi, ce qui est difficile dans votre journal et dans la ligne que vous essayez de défendre, c'est de tenir donc justement les ambitions scientifiques face à des débats que la société a parfois du mal à cerner. Je pense par exemple au numéro que vous avez fait sur l'Arménie ou encore un numéro sur les colonisations. Ça a été des numéros particulièrement difficiles à la fois pour faire dialoguer les historiens. Vous avez eu beaucoup de lettres, non, en réponse à l'Arménie, par exemple.
Beaucoup de lettres, oui, c'est même plus que ça. Mais c'est un très bon exemple. Je l'aime beaucoup, cet exemple-là, parce que ça fait très longtemps qu'on a traité de l'Arménie et dans des contextes extrêmement difficiles, justement, de montée de demandes sociales. Comment répondre, comment établir un dossier scientifique, un dossier de référence sur un sujet non seulement difficile, mais très très chaud, enfin un sujet mémoriel, brûlant. Alors, comment faire? Au fond, il faut avoir quelques boussoles, enfin, pas quelques boussoles, mais quelques cadres bien établis et une bonne boussole. La boussole, c'est d'abord, je dirais, il y en a la première, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, essayer d'arriver, c'est jamais parfait, mais enfin, essayer d'arriver sans trop de préjugés. Hein, c'est quand même la méthode des Lumières. Je veux essayer de comprendre, je fais parler, je veux lire un peu et laisser s'exprimer des voix très différentes, etc. Donc, tout ça quand même en essayant d'établir quelque chose qui ressemble le plus possible à une vérité historique. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, quelles sont les sources, quels sont les débats, etc. Et avec ça, avec cette question-là, car au fond on travaille beaucoup à la demande, hein, la revue est à la croisée d'une offre universitaire et d'une demande sociale. Bon, au fond c'est ça, c'est l'offre et la demande. Et donc on joue le rôle en tant que journaliste de la demande, c'est-à-dire qu'on va faire parler les auteurs, écrire les auteurs. Après, dans un sujet comme celui-là, la difficulté c'est d'accepter, de les faire accepter d'écrire dans le même numéro quand quelquefois ils ne veulent même pas se croiser. C'est quand même un des titres de gloire de la revue. Je suis très contente que vous ayez pris cet exemple. On a fait deux dossiers sur l'Arménie. On a fait travailler Fouad Doundar, qui est un Turc qui travaille sur l'Arménie. On a beaucoup réfléchi, travaillé, évolué nous-mêmes sur la question de la nomenclature, de l'utilisation du mot génocide, de la définition, etc. Et on a repris ce que je trouve vraiment très bien, parce qu'il me semble que c'est aussi un travail militant, là, et un rôle militant qu'on a à jouer. On a repris une partie de cette affaire dans un numéro entier sur les Turcs, qu'on a publié l'an dernier, au moment de la saison turque. Et on a vendu 7000 numéros de la Turquie à la saison turque, dans lequel il y avait
le dossier
tout, un dossier, disons, une partie du dossier repris sur l'Arménie. Et je me dis qu'on a fait un travail, peut-être, qui n'était pas indifférent, même en matière politique.
Pour revenir sur l'histoire, vous accordez beaucoup d'importance à la vulgarisation, enfin, c'est pas la vulgarisation, mais...
Si, c'est de la vulgarisation, au sens...
Et pourquoi oui. Qu'est-ce que vous pensez que l'histoire apporte aux citoyens lambda?
Il n'y a pas de citoyen lambda, il y a des citoyens. Voilà. Il y a des citoyens, l'histoire fait partie de la politique. Évidemment, il faudrait aussi avoir une culture scientifique, etc. Mais l'histoire, pour un peu des raisons que j'ai évoquées rapidement, elle est au cœur quand même de notre projet politique, elle est au cœur de notre histoire républicaine. Essayer de comprendre d'où on vient, essayer de savoir comment on peut vivre ensemble, la laïcité, comment on peut cohabiter en n'ayant pas les mêmes religions, en n'ayant même peut-être pas de religion du tout, qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que la Révolution, éviter de sortir des images, enfin, pas éviter de sortir, pardon, sortir des images d'Épinal, éviter de trimballer trop d'images d'Épinal, essayer de
parler sans préjugés, vous avez dit tout à
l'heure. Oui, je pense que c'est quand même, c'est quand même un des programmes prioritaires de la philosophie des Lumières, essayer de se libérer de ces préjugés le plus possible. On n'y arrive jamais complètement. Mais l'histoire nous y aide. Si on l'a fait, peut-être, probablement d'autres disciplines aussi. Mais enfin, c'est une vraie. Il y a une méthode historique. Il y a une méthode historique, confronter les sources, les critiquer, leur faire un peu rendre gorge. C'est évidemment une méthode qui s'applique assez bien à la politique.
Et donc on parle du journalisme depuis tout à l'heure, et vous semblez assez passionné par la rencontre entre le journalisme et l'histoire dans votre vie. Pourtant, comment s'est fait cette entrée dans le monde du journalisme? Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez suivi une formation en plus, ou est-ce que vous y êtes allé comme ça et vous avez appris sur le tas?
J'ai poussé la porte pour faire mon stage, je n'ai aucune formation de journaliste. Du reste, la formation de journaliste, elle est importante, elle peut se donner, on peut apprendre, et on forme nous-mêmes beaucoup de stagiaires, une à la fois, je ne saurais trop vous y inciter, il faut faire des demandes, les très très bons historiens, les très bons étudiants, pas forcément historiens d'ailleurs, sont invités à venir, il faut avoir envie de travailler, il faut rester assez longtemps pour apprendre le travail, mais c'est quand même un travail qui, avec une solide formation académique de culture générale et discipline en histoire, par exemple, pour une revue comme Histoire, mais il y a beaucoup d'historiens dans les autres journaux aussi, c'est quand même un métier qui s'apprend assez bien sur le tas, c'est-à-dire essayer de raisonner, essayer de bien réfléchir, acquérir de la culture, l'appliquer à des grilles de questions, avoir des relations les meilleures possibles avec les auteurs les meilleures possibles, aimer l'écriture, réécrire, car dans le fait que la revue peut avoir, le magazine peut avoir un succès dans un grand public, c'est une entreprise de vulgarisation, en ce sens, je pense que le mot a ses lettres de noblesse, c'est aussi parce qu'on s'efforce d'avoir une écriture, on fait beaucoup de réécriture des articles. On réécrit beaucoup les articles, pas tous, plus ou moins, mais quelques-uns pas du tout, quelques-uns complètement. On retravaille avec les auteurs. Tout ce qui est publié est à l'imprimatur des auteurs, évidemment. Bien entendu, y compris les légendes, les chapeaux, les titres, etc. Enfin, on discute beaucoup, mais tout est fait avec eux. Mais on réécrit, pas toujours, mais on réécrit beaucoup. Et certains auteurs, ça c'est quand même, ça s'apprend petit à petit. Le writing, c'est un métier aussi, mais qui s'apprend en faisant. Hein. C'est comme la broderie, j'imagine. Bon, il faut en faire beaucoup, beaucoup pour apprendre à broder. Enfin, j'ai pas expérimenté moi-même, mais je pense que c'est pareil. Et donc, il faut aimer ça. Il faut aimer les mots. Il faut lire. Il faut travailler la matière. Mais ça fait partie quand même de la lisibilité, enfin du plaisir. Du plaisir à prendre une revue en main, le travail sur l'iconographie aussi. Il y a une iconographe qui est là, dans la petite équipe de cette personne, il y a une iconographe à temps plein. Et le travail sur l'iconographie et sur les cartes est un travail alors que j'ai complètement découvert. Vous me demandez comment j'ai appris. J'ai appris parce que j'avais un rédacteur en chef à l'époque qui était impitoyable, qui m'a de temps en temps redonné la copie avec des mots un peu amènes. J'ai compris qu'il fallait se mettre à travailler, quoi.
Alors, pour le dernier numéro de 20 minutes d'histoire, je fais un peu de pub pour ma propre émission.
Mais vous avez raison.
Portait sur, justement, les rendez-vous de l'histoire à Blois, et qui s'intitulait « Faire justice », si je ne me trompe pas. Et donc, outre l'enseignement, outre la direction d'une revue, vous siégez aussi à ce conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et cela vous donne un aperçu de la recherche et des productions de la discipline historique chaque année, sur un thème bien précis, justement. Alors, quel est votre sentiment sur l'état de ce domaine aujourd'hui,
sur l'état de la recherche,
oui, sur l'état de la recherche
en histoire. Voilà. Alors heureusement, il n'y a pas que les rendez-vous de Blois, ouais. Évidemment.
Hein, on est
en permanence avec des universitaires. Moi, j'en rencontre beaucoup tous les jours, enfin toutes les semaines. Et on va dans des tas de colloques, de rencontres. On reçoit tous les livres. Il faut qu'on soit à l'affût des sujets nouveaux, car un des contrat de lecture de la revue, c'est quand même de vous servir à vous pour votre programme d'agrégation, tant qu'il y en a encore, et bien des leçons toutes faites. Enfin bon, c'est pas seulement ça, hein, mais un bon article de l'histoire, c'est aussi ça. Donc il faut qu'on ait un peu la visibilité sur la production historique académique. Ça, c'est l'offre, disons, hein, la partie offre de la revue. Mais les rendez-vous de Blois, on en est en effet partenaire. Si je fais partie du conseil scientifique de Blois, c'est évidemment en tant que directrice de la rédaction de l'histoire. Mais c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que les rendez-vous de Blois, c'est la grande foire à l'histoire. J'avais dit un jour que c'était le festival de Cannes de l'histoire. Pas du tout le côté clinquant, il n'y a pas Sophie Marceau, il n'y a pas les marches, etc. Mais enfin, c'est le lieu où il faut être. Il y a 25 000 personnes, je ne saurais trop vous engager à y aller. C'est formidable. Ça n'existe pas. Les autres disciplines nous l'envient. L'histoire de l'art est en train d'essayer de faire la même chose. Si. Il y a le festival de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, hein, qui a servi d'ailleurs, il ne faudrait surtout pas l'oublier, car il a servi de modèle. Et Jacques Lang est allé chercher Francis Chevrier, qui était la cheville ouvrière de Saint-Dié-des-Vosges, mais à qui il a donné à Blois, évidemment avec une discipline qui a aussi un rayonnement peut-être un peu plus facile, et puis des moyens considérables, et lui a donné l'occasion de construire un festival d'histoire, enfin, qui est vraiment les rendez-vous de l'histoire, internationaux, sur des sujets assez difficiles, mais qui, comme l'histoire, c'était assez logique qu'on y soit invité, car c'est un peu la même idée. On fait venir des universitaires, aussi des personnalités, mais proche de l'histoire, où l'année dernière sur la justice il y avait Badinter, il y avait Madame Delmas Marty qui nous a fait une conférence éblouissante, Badinter a arraché les larmes à tout le monde, enfin tout ça a été magnifique, mais il y avait aussi à côté des dizaines d'universitaires sur des sujets vraiment difficiles, ingrats, qui ont discuté de l'inquisition, des sources, de la justice, enfin de l'histoire de la justice, avec des débats extrêmement pointus et des amphithéâtres pleins. Et donc, alors nous, on y fait un peu notre marché, entre autres, hein, comme les gens de cinéma font leur marché à Cannes. Bon, on ne le fait pas que là, mais on le fait là aussi. Mais c'est bien, il y a des étudiants qui viennent de partout, des profs qui viennent de partout. Et ça aussi, ça fait partie, je pense, d'une tradition et d'une spécificité française, c'est-à-dire l'idée, pourvu que ça dure, enfin, moi je le pense qu'il faudrait que ça dure. Mais l'idée d'un lien très fort qui est très français et qui est un peu mis à mal par les évolutions actuelles de l'enseignement, d'un lien très fort entre le supérieur et le secondaire. Et ça, c'est une originalité française qui vient de l'histoire de la pyramide de Jules Ferry. Hein. Il faut que ça ruisselle, il faut que le meilleur de l'université ruisselle dans les écoles normales, supérieurs et d'instituteurs à l'époque, et dans les lycées, et jusque dans les classes de la plus petite commune de France. C'est ça l'idée, et il n'y a pas de l'enseignement au rabais pour les pecnos, passez-moi l'expression, et de l'enseignement chic et choc pour la Sorbonne. Et donc il y a cette idée du ruissellement, hein, qui n'est peut-être pas indifférente à un géographe, du ruissellement nécessaire de la meilleure. Du meilleur de la science. Mais évidemment, on l'adapte. C'est dans ce sens que le mot vulgarisation ne me paraît pas du tout une...
Négatif.
Mais oui.
Passons complètement autre chose. Malgré toutes ces activités, vous êtes resté professeur. Est-ce par vocation, par goût, ou est-ce que c'est plus pour suivre ce qu'on attend un peu d'un élève de l'ENS?
Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je vais quand même tenter.
C'est
je ne saurais pas y répondre de façon absolue. Je pense que pour cela, comme pour tout le reste, il y a beaucoup le hasard de la vie qui joue. Simplement, par vocation, sûrement pas, car j'ai beau être fille d'instituteur, d'institutrice, et avoir toujours été très bien dans ce milieu-là quand j'étais enfant, j'avais envie de tout sauf d'être enseignante. Je voulais sortir de ce milieu, c'est pour ça. Mais ce qui m'est apparu assez vite, c'est que c'était assez complémentaire. D'abord, c'est une très grande liberté. On peut quand même prendre... C'est un milieu qui, dans le secondaire, voilà, ne différencie pas les hommes et les femmes. Dans le supérieur, c'est un tout petit peu, encore un tout petit peu moins vrai. Mais de moins en moins, c'est un milieu où l'on gagne convenablement sa vie en ayant quand même une certaine... surtout à l'époque, pourvu que ça dure aussi, une certaine liberté d'organisation de son temps, c'est-à-dire où on peut faire quand même autre chose à côté.
C'est facile de faire autre chose à côté ?
Alors, c'est facile, évidemment. Il faut quand même beaucoup travailler, ça, c'est sûr. Si on aime beaucoup faire du sport, ou si on adore faire de la pâtisserie 2 jours par semaine, ce qui n'est pas du tout infamant, non. Là, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler. Oui. Enfin, disons, consacrer une grande part au travail, disons, intellectuel ou historien. Mais si on prend un temps partiel, si on prend... Je ne dis pas que ce n'est pas un métier prenant, hein, c'est fatigant d'enseigner. Ça apporte aussi beaucoup... moi, au fond, je n'ai jamais souffert d'enseigner. Au contraire, j'y ai pris même de plus en plus de goût au fur et à mesure que j'avance en âge. Parce qu'on côtoie des gens jeunes, parce que c'est un milieu où les gens ne vieillissent pas. Enfin, je parle des élèves. Il y a du retour, il y a quand même un appétit. J'ai pas toujours enseigné dans des classes très faciles, mais je ne minimise pas la difficulté, et aujourd'hui peut-être encore plus. Mais enfin, c'est quand même... malgré tout, elle a ses beaux métiers. Et je pense que c'est un métier qui apporte beaucoup, surtout si on se ravitaille aussi un peu ailleurs. C'est un métier où peut-être il ne faut pas se laisser complètement pomper l'énergie sans la refaire ailleurs et sans récupérer du carburant. Mais quand on est un peu journaliste, un peu, les choses sont assez complémentaires. Faire un cours, par exemple... une activité intellectuelle intéressante. Ça oblige à classer, à trier, à tirer une problématique. C'est un exercice intéressant. Les copies à corriger, ça, c'est vraiment la corvée. Les premières sont intéressantes, et puis au bout d'un moment, c'est terrible. Mais chaque métier a ses corvées, et journaliste aussi.
Alors, parlons un peu maintenant de vos années d'études à l'ENS. Quel cursus avez-vous fait en histoire ? Enfin, quelle a été votre spécialité, vos thèmes de recherche ?
Alors, hélas, sans doute, on ne peut pas tout faire, mais hélas, je n'ai pas poursuivi dans la recherche. C'est évidemment aussi quelque chose de passionnant. J'ai un peu trop papillonné, peut-être. J'ai fait une maîtrise qui m'a passionnée sur... les topographies médicales des lumières, d'où mon goût pour les lumières peut-être. Donc j'ai travaillé sur les archives de la Société Royale de Médecine, l'ex-Académie de Médecine, enfin l'ancienne. J'ai fait une maîtrise comme ça. J'ai travaillé ensuite un peu sur les jardins et très vite sur les salons. Et le salon de Madame Necker, et donc je me suis arrêtée, j'ai encore quelques fiches dans des cartons. D'ailleurs, ce sujet en tant que tel n'a jamais vraiment été traité depuis, mais je me suis arrêtée, parce que j'ai choisi d'autres voies, et notamment de travailler à l'histoire. Donc le cursus, tout ça c'était sous la direction de Daniel Roche, qui est évidemment un très grand spécialiste des Lumières. J'ai eu la chance à l'époque de rencontrer Darnton, Arlette Farge, enfin on suivait beaucoup de séminaires, on adorait. Les années de NS ont été des années, on arrivait à Paris, moi j'arrivais de Rouen, on arrivait à Paris, on allait voir tous les films, on allait à tous les séminaires, on allait aux études, on allait à la Rue d'Ulm, on allait à Fontenay quand même un peu. C'est vrai que c'était une ouverture formidable. J'y ai rencontré des amis qui sont encore parmi mes meilleurs amis. Bon, c'est un vrai bouillon de culture, c'est une grande chance. On est payé, on peut aller voyager. Bon, c'est évidemment un vrai. Des vraies années de formation. Enfin, c'était, je pense que ça l'est encore.
Donc, à la lumière de votre expérience, la formation que vous avez reçue a-t-elle été utile pour affronter justement la diversité de vos activités, de cumuler plusieurs choses, comme on vient de le voir ?
Parce que finalement, forcément, oui. Ouais. Forcément. Mais ça, c'est impossible. Forcément, ce que j'ai fait à l'ENS m'a aidé puisque j'ai pu ensuite le faire. Quoi. Mais je pense, disons-le plus simplement, que c'est une forme. Que j'ai eu la chance, comme vous, je pense, d'avoir une formation très solide. Mmh. Et donc.
Mais disons, pour sortir un peu des clichés de la formation pour la recherche et par la recherche, des fois, on se dit, est-ce que c'est. Enfin, c'est toujours la formule employée. Mmh. Pour, donc, justement, est-ce que c'est pas un peu. Enfin, la formation vous a aussi aidé à sortir de ce monde. Enfin, pas à sortir du monde universitaire, mais disons, à faire autre chose, ou en tout cas à cumuler.
Sans doute, oui, sans doute, parce que on ne peut pas dire que ça coupe les ailes, on ne peut pas dire que ça émousse la curiosité, on ne peut pas dire que ça interdit de réfléchir, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas appris un peu à écrire, à faire un devoir construit. Bon, tout ça aide.
C'est peut-être toujours. Plus vos années de prépa, non ?
Oh ben, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, ça, je pense que, évidemment, les années de classe prépa sont décisives aussi. Ne serait-ce qu'à cause de la pluridisciplinarité, du fait qu'on a fait de la philosophie, de la littérature plus longtemps, et que quand on a étudié Jacques le Fataliste en prépa et Lorenzo Datcio, on le sait par cœur toute sa vie, et que c'est magnifique. Et, bon, mais qu'on a fait du latin un peu plus longtemps, etc. Mais de la géographie, des coupes, bon, des coupes géologiques, de la pluridisciplinarité. Mais à Fontenay aussi, oui.
Oui, d'accord.
Enfin, je dis Fontenay, oui, à l'ENS.
Et avant de terminer notre entretien, peut-être pourriez-vous nous raconter un souvenir, justement, de vos années à l'école ?
Oui, ça, j'ai beaucoup de souvenirs des années à l'école, mais qui sont des souvenirs qui ne sont pas forcément dans les murs de l'école de Fontenay, puisque je n'y étais pas interne. Je me suis demandé, quand vous m'avez posé cette question, ce qui me venait spontanément. J'ai envie de vous parler des voyages qu'on faisait, que vous faites, j'espère encore. Donc chaque année, on avait commencé par un voyage pour se connaître. Alors c'était en Alsace, et puis on en a fait en Hongrie, on en a fait. Enfin bon, c'était absolument merveilleux. On a fait un voyage en Algérie, et je voudrais rendre un petit hommage à la directrice qui était la directrice de l'école à l'époque, qui était Jacqueline Bonamour, donc une grande géographe. Et on avait des professeurs évidemment d'histoire et de géographie qui nous accompagnaient dans ces voyages où il y avait des cloutiers qui venaient. On visitait beaucoup les caves. Pas en Algérie, évidemment, mais en Alsace, en Hongrie, le Tokaj, tout ça, oui. Et on s'amusait bien, et on travaillait aussi. Et un jour, si vous avez envie d'une anecdote, on est descendu, il y avait toute une cariolée, un car dans la Mitidja, et on a vu un beau champ, enfin un champ de céréales, et Madame Bonamour, au milieu de ses filles, expliquait avec grand geste que c'était un bon exemple d'un champ en friche, etc. Et on était en train de piétiner gaiement dans tous les sens le champ prétendument en friche, jusqu'à ce qu'un l'agriculteur algérien hirsute surgisse de sa sieste avec une fourche et nous pourchasse, et nous sommes toutes remontées dans le car, et on s'est dit que finalement ça devait pas être tellement en friche que ça, et qu'on n'avait pas vraiment fait œuvre de coopération entre les peuples ni de grand discernement. Bon, enfin, c'était surtout une façon de vous parler de ces voyages qui faisaient aussi partie de la formation. On en faisait un peu, et bon, on aurait aimé en faire plus, mais ça a contribué, disons, à nous donner le goût des voyages si on ne l'avait pas déjà, et c'était aussi une grande chance de les faire dans ces conditions-là, parce qu'on se voyait ouvrir beaucoup de portes.
Oui, bien, merci beaucoup, Madame Valérie Hanin, d'avoir accepté donc, notre interview.
Merci à vous.
Merci.